pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter Bertie Lionnet, qui est bien, bien connu depuis longtemps comme chercheuse sur l'archéologie de l'Asie centrale dans les périodes, peut-on dire, les plus diverses. Je crois qu'il n'y a guère que le paléolithique supérieur, peut-être qu'il échappe à ses investigations. Bertil est, comme la plupart, disons, des gens de ma génération qui sont intervenus ou vont intervenir ici, a fait ses premières armes en Afghanistan dans le cadre de la mission d'Aigranoum, où elle était plus spécialement chargée, aux côtés de Jean-Claude Gardin et Pierre Gentel, de la prospection de la plaine, enfin des plaines qui entouraient la ville. Donc après, elle est devenue, ce qui l'a amenée à publier un certain nombre d'ouvrages de référence sur la céramique de l'Asie centrale, de toutes les périodes, et nous attendons avec une impatience non dissimulée le grand ouvrage sur les céramiques de la Sogdiane de l'âge du bronze à l'époque islamique, qui est en voie de quasi-achèvement très rapide. Elle a ensuite élargi ses réflexions bien au-delà de ce que pouvait fournir le seul matériel céramique, une réflexion à caractère purement archéologique ou historique, et également elle a élargi ses terrains, puisque elle ne travaille pas seulement maintenant en Asie centrale, mais aussi dans le Caucase, en Azerbaïdjan, et d'ailleurs ça va nous... en Azerbaïdjan et aussi en relation avec la Géorgie. Et c'est à son initiative, et je l'en remercie vraiment beaucoup, que nous aurons le 13...
12.
Le 12, ici au collège, une conférence de son collègue géorgien, le professeur Maharadze, qui nous présentera une découverte sensationnelle de tombes à char de l'âge du bronze faite en Géorgie. Mais là, à ma demande, elle revient aujourd'hui aux fondamentaux de l'Asie centrale sur un thème qui prend la suite de ce que nous ont présenté Julio Bendezu et Johanna Lhuillier et Henri-Paul Francfort dans des séances précédentes. Quand on s'intéresse aux villes en Asie centrale, il faut aussi s'intéresser aux non-villes. Les villes naissent, les villes croissent, mais les villes meurent. Et voilà, il faut essayer de trouver des modèles explicatifs. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole.
Merci, Franz. Bonjour. Donc, je vais vous parler, je vais essayer de parler de ce thème, mais je me suis aperçue que finalement, j'avais balayé encore plus large que prévu. Et on va remonter aussi dans le temps, parce qu'il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe dans toutes ces régions depuis le départ, en quelque sorte, pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Alors donc, je vous rappelle l'Asie centrale, les zones qui nous intéressent, et on abordera donc le déclin de la civilisation de l'Oxus, ou Bimak, à partir de 1700 jusque vers 1500 ou 1400 avant notre ère, puis l'apparition d'une nouvelle culture dite Yaz-1, entre environ 1400 et 1000 avant notre ère, puis le développement de deux entités tout à fait différentes, la Bactriane et la Sogdiane, entre 1000 et 520 avant notre ère, la domination achéménide jusqu'à la conquête d'Alexandre, autour de 330. Mais donc, comme je viens de vous le dire, il faut faire un petit retour en arrière pour mieux comprendre ce qu'est la Sogdiane. Et par là, j'entends, le terme de Sogdiane est un terme qui est apparu très tard, mais pour comprendre pourquoi il se différencie de la Bactriane, il faut revenir en arrière. La Sogdiane, c'est en quelque sorte, son cœur étant la vallée du Zerafshan. Et donc, je vais remonter au chalcolithique encore un peu avant. avec le site de Sarrazme, dont je pense Henri Paul vous a parlé, qui se trouve juste quasiment à la frontière entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, dans la vallée du Zarafshan. Et à la même époque, on connaissait en Turkménie, dans l'oasis du Tedjen, des cultures dites de géoxure. On connaissait aussi dans le Piémont de Turkménie des cultures dites de Namazga. On connaissait dans toute la partie sud de l'Asie centrale, c'est-à-dire le Baloutchistan, tout un ensemble de cultures qu'on peut en quelque sorte rapporter au site de Mergar et toute la succession chronologique auquel il a donné lieu. Je pense qu'Henri Paul vous a bien montré que ce site de Sarrazme avait des relations avec toutes ces régions, même au-delà jusqu'en Iran du Nord-Est, évidemment avec le Baloutchistan. Nous avons trouvé, lors de cette prospection dont vous a parlé Franz, quelques sites qui pourraient se rapporter aussi à cette époque. À la même époque, il y avait d'autres cultures qui, elles, étaient à un stade quasiment néolithique. Je parle de la culture de Hissar, qui ne connaissait pas la céramique, qui n'avait que des galets taillés et qui, visiblement, a perduré très longtemps. Selon nos collègues, elle aurait perduré quasiment jusqu'à la fin de l'âge du bronze. À la même époque aussi, il y avait la culture de Kelteminar. Et cette culture s'étend sur un très vaste territoire, probablement même au-delà du cercle que je vous ai mis. C'était une culture de cueilleurs, pêcheurs, éleveurs, plus ou moins aussi. Et on a également reconnu, tout à fait sur les bords, je ne le vois pas ici, sur les bords de l'Oxus, et dans le Surkhandarya, des microlithes et du matériel lithique d'un néolithique très ancien qui, pour le moment, n'est rattaché à rien d'autre. Donc, dans la vallée du Zarafshan, qui se situe donc ici, alors, il faut que je la revoie ici, ça doit être à peu près ça, dans la vallée du Zarafshan, le site de Sarrazme avait montré, outre toutes ces relations que je vous ai montrées avec ces régions très éloignées les unes des autres, on y a trouvé une tombe sous Kourgane, entourée par un cercle de pierres, qui a été rapprochée de la culture d'Afanassivo. C'est une culture qui se trouve dans les steppes, et elle était apparemment liée à la période initiale de Sarrazme, c'est-à-dire quelque part autour de 3500 avant notre ère, d'après les données que nous avions. Des fouilles sont en cours maintenant, je ne sais pas si les dates vont évoluer ou pas. C'était une tombe très riche, qui avait de l'or, de la turquoise, de l'argent, des coquillages venus de l'océan Indien, etc. Et qui montrait donc que cette culture d'Afanassivo était aussi en contact avec tous ces gens. Il y avait également à Sarrazme quelques tessons n'étaient pas de ces cultures des oasis du sud et qui montraient des rapports avec le nord ou l'ouest. En particulier donc le tesson que vous avez à gauche, le vase de gauche, que moi j'avais rapproché de la culture de Kelteminar. Mes collègues pensaient peut-être que c'était aussi de l'Afanassivo. Je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas si Frédéric est ici. Non, elle n'est pas là. Parce que bon, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle confirmait plutôt Kelteminar. Donc nous aurions à Sarrazme déjà Afanassivo, Kelteminar, ces gens des steppes qui se rassemblent dans cette région. Et puis vous avez d'autres tessons, les deux du dessous, qui sont peut-être un peu plus tardifs, et qui se rattache quelque part à une culture des steppes. Tout près de la frontière du Tadjikistan, mais déjà en Ouzbékistan, notre collègue Nona Avanesova avait fouillé une trouvaille fortuite qu'elle a dénommée cultuelle. Là, nous sommes en plein dans les propos de Franz. Cultuelle, on ne sait pas pourquoi, simplement parce qu'il y avait là-dedans un assemblage un peu difficile à expliquer, donc c'est devenu cultuel. Et cette fosse, il y avait du matériel à la fois Afanassievo, c'est ce que vous avez en haut, ici, du matériel dit de la culture de Yamnaya, du matériel de type Sarasm et du matériel dit Kelteminar. Donc là encore, tout un assemblage de ces gens des steppes ensemble. À cette époque, on connaît déjà évidemment le métal, mais il s'agit uniquement de cuivre pur. En particulier là, cet anneau et ceci. Tout près de Joukov, un tout petit peu plus loin en direction de Samarcande, une autre trouvaille fortuite a été la découverte de Tougaï, qui se trouve sur pas très loin des bords du Zerafshan. Il s'agit d'une hutte semi-enterrée dans laquelle il y avait ensemble à la fois de la céramique de type Sarasm et de la céramique dite de la phase Petrov de la culture Andronovo. Et il y a aussi toute une installation métallurgique qui travaillait du cuivre arsenié, naturel ou pas, on ne sait pas. Donc voilà le matériel de type Sarasm et voilà le matériel de type Andronovo. Toutes ces cultures des steppes reçoivent comme ça des noms différents. Mais il est très souvent très difficile de les distinguer les unes des autres parce qu'il doit y avoir en fait tout un continuum et les changements se font vraiment de l'une à l'autre et on a tout le temps des transitions et les mêmes auteurs hésitent et une fois vous disent que c'est ceci et quelques années plus tard, autre chose. Donc il est très difficile exactement de savoir où on en est. Mais on sent quand même dans tout ça une unité, c'est-à-dire c'est un peu la même manière de faire la céramique, la même manière d'y mettre un dégraissant souvent de coquillage toujours une espèce de pâte grisâtre. Et une constante, c'est qu'ils sont toujours des métallurgistes affirmés. Alors, à l'époque du BIMAC et de Chortougaï, donc quelque part entre 2003 et 1700, là nous nous situions entre 3005 et 2005 à peu près, donc un petit peu plus tard, toujours dans la vallée du Zerafshan, oui, donc je vous rappelle le BIMAC avec les deux zones principales, Chortougaï, le piémont du Kopet-Dag. Et voilà, dans cette région, qui est le bas du Zerafshan, le delta du Zerafshan, se trouvait le site de Zaman Baba et son cimetière. Et comme vous voyez, le genre d'habitat n'a rien à voir avec les palais de Gonour que vous avez vus ou de Djarkoutan. C'est tout à fait différent. Ce sont des huttes semi-enterrées, mais ici d'une taille assez grande, une vingtaine de mètres de long sur 10 de large à peu près. La céramique qu'on a trouvée à la fois dans ce bâtiment et dans les tombes montre clairement qu'elle est à la fois issue de la culture de Kelteminar, mais on y voit aussi des intrusions de la phase ancienne du BIMAC. Et à l'époque, la métallurgie, qui est aussi attestée, montre qu'on pratique surtout du cuivre arsenié, avec peu d'étain. Donc voici, par exemple, vous voyez très bien que le vase en haut est un vase importé qui n'a rien à voir avec le reste de la céramique que vous avez vue. Ces espèces de petites maisons modèles sont aussi importées. Il y en a à Shortugai. C'était plutôt quelque chose de connu chez les sédentaires. Et parmi les ornements qui ont été trouvés surtout dans les tombes, et surtout, il y a en particulier celles-ci qui sont tout à fait repérables et qui sont bien connues à Holtin Tepe, en Margiane et jusqu'à Suse. Et voici des analyses spectrales du métal qui vous montrent que l'étain était encore en très petite quantité. Ici. À Frasiab même, à Samarcande, l'ancienne Samarcande, parmi les occupations les plus anciennes du site, plusieurs tombes ont été fouillées avec en particulier donc, des bijoux qui sont typiques de la culture d'Andronovo. En particulier ces boucles d'oreilles en forme de trompette, ici, celle-ci en forme de 8, et associées dans la même tombe, il y avait ces perles qui sont tout à fait caractéristiques de la culture Bimak, et que d'ailleurs on retrouve jusque dans le Caucase. Et du matériel Andronovo. Enfin, en particulier, donc, ces boucles d'oreilles, comme je vous l'ai dit, c'est typique Andronovo. Alors, Nona Vanesova a de temps en temps parlé d'Alakoul, de temps en temps parlé de Tazabagiab. Je vous avoue mon incompétence. Si l'on retourne dans la région proche de Zamanbaba, on a trouvé là toute une série de stations, c'est-à-dire des occupations temporaires et cimetières qui montrent là encore toujours ce même type de céramique avec des décors incisés ou au peigne et qui sont rattachés à la culture Andronovo de type Tazabagiab cette fois-ci. Là, tout le monde a l'air d'être d'accord. Et là, la métallurgie est véritablement du vrai bronze, c'est-à-dire du cuivre et de l'étain. Voici d'autres. Et vous voyez, on retrouve les mêmes boucles d'oreilles que celles d'Afrasiab. Donc on est vraiment bien dans la même culture. Et donc, le vrai bronze, puisque l'étain, ici, est déjà dans des pourcentages nettement plus importants, donc c'est véritablement délibéré un apport d'étain. Donc, en conclusion, je ne vais pas vous sortir tous les sites qui ont été repérés. Il faut dire qu'à chaque fois, ils ont été repérés fortuitement parce qu'ils sont tous complètement oblitérés par l'alluvionnement du Zerafshan qui est considérable. En général, ils se trouvent à plus de 4 mètres sous la surface. Et il n'y a que lors d'effondrement des parois en cas d'inondation ou lors de grands travaux, etc., que finalement ce genre d'occupation apparaît. Et à chaque fois, pour tout ce qui concerne donc, ces périodes chalcolithiques jusqu'à l'âge du bronze, on s'aperçoit qu'on a dedans des objets qui sont en lien avec les oasis du sud, soit des perles, soit de la céramique, etc. Une seule tombe, celle de Zarcha Khalifa, qui était tout près de Sarrazm, montrait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait plutôt l'impression que là, on avait la tombe d'un sédentaire qui s'était mis au cœur des occupants de cette vallée, qui, eux, étaient tous quand même du type gens des steppes. Et il faut savoir aussi que dans les montagnes qui bordent la vallée du Zerafshan, les montagnes du sud, c'est-à-dire celles qui séparent justement de la zone des agriculteurs et du Bimak, d'importants gisements d'étain ont été repérés il y a longtemps, déjà dans les années 50, mais des vraies fouilles ont été effectuées simplement dans les années 2000 par nos collègues allemands. Et ils ont pu montrer, ils ont pu découvrir des tessons de céramique tout à fait de type Tazabagiab et des charbons de bois qui remontent à peu près à cette époque, c'est-à-dire la fin du Bimac. Et en même temps, comme Henri Paul a dû vous le dire, et comme Julio aussi a dû en faire état, dans cette zone sud, on observe la présence de groupes andronoviens, en général, on dit surtout Tazabagiab, parmi les populations des oasis. Là, en l'occurrence, c'est une tombe à Tahrirbaï, donc en Margiane. À mon avis, ici, ça n'est pas vraiment du Tazabagiab, c'est Andronovo plus sûr. Mais ici, voilà un vase Tazabagiab qui a été trouvé même à Tahrirbaï. On sait qu'il y en a à Gonour, etc., etc. Donc, ce qui est certain, c'est que la vallée du Zerafshan montre bien qu'elle est peuplée depuis l'origine par des populations semi-mobiles, plus ou moins issues de la culture de Keltemina, et qu'elles pratiquent la métallurgie dès la fin du IVe millénaire. Elles sont en contact et elles échangent avec d'autres populations dans les steppes, Afanassievo, Andronovo, etc. Elles sont aussi en contact avec les populations du sud. Et j'ai émis l'hypothèse que ce qui intéressait surtout et ce qui pouvait expliquer la formation et le développement du Bimac, c'était l'étain et le lapis-lazuli, bien sûr. Et que c'était essentiellement le commerce de ce matériau qui pouvait expliquer cet incroyable déferlement d'objets extrêmement riches en or, en argent, tous ces sceaux de tas de styles divers avec toutes ces régions. Et lorsque la demande a disparu, la demande en étain, c'est-à-dire à peu près au moment où Hammurabi de Babylone a mis fin au royaume de Mari du côté de l'Euphrate, on assiste, comme par hasard, à l'effondrement du Bimac et de toutes ces régions qui sont associées, l'Indus, le Golfe, les Lames, tout ça ensuite devient un peu moribond. Bon, c'est une explication, c'est une hypothèse. Évidemment, on peut la rejeter et la discuter. D'autres ont considéré, par exemple, que l'effondrement du Bimac serait dû à l'arrivée des Andronoviens. Je vous ai parlé plusieurs fois, vous avez vu Andronovo. Et pour eux, c'est essentiellement là Elena Kuzmina, qui est la grande théoricienne de ça, les Andronoviens seraient les Indo-Iraniens ou les Aryens, et ce seraient eux qui auraient mis fin au Bimac. Alors, selon certains, en particulier, ce sont les Italiens qui ont travaillé dans le Mourgab, dès la seconde phase du Bimac, c'est-à-dire immédiatement après 2000, on verrait déjà des signes de déclin. L'environnement deviendrait plus aride, les sables commenceraient à avancer dans le delta et tout ceci serait lié aussi avec les intrusions progressives des peuples de la steppe. Je vous ai montré les tessons de ces gens. À partir de 1700 environ, on assiste à une rupture assez brusque qui se manifeste par l'abandon des sites importants. Donc, on peut parler en quelque sorte de désurbanisation. Tout dépend si on considère qu'avant, on avait vraiment affaire à des villes. Je vous rappelle quand même que Gonour ne dépasse pas 25 hectares, je crois. Donc, c'est vraiment pas très grand. Mais en tout cas, disparition totale des objets de luxe, des sceaux, l'architecture monumentale aussi. Et en revanche, on voit l'utilisation de l'étain qui se développe sur place et les peuples de la steppe qui deviennent davantage visibles. Tout ça correspond aux phases qu'on appelle Molali et Boustan dans la partie de la Bactriane ou Tahrirbaï dans la partie de la Margéane. À la même époque, d'autres sites et de nouvelles cultures apparaissent, qu'on appelle les cultures du Bishken, du Varch, etc. Chacune est très localisée, il y a une fragmentation, disons une régionalisation des cultures à cette époque, et quelques nouveaux rituels qui apparaissent, la crémation qui semblerait liée aux Androvoniens, et des cénotaphes avec des enfouissements de figurines anthropomorphes en lieu et place du mort lui-même. Il semblerait que les populations des steppes s'intègrent au monde méridional, mais en tout état de cause, on n'a jamais retrouvé de tessons des steppes au-delà de la Bactriane, vers le sud. Alors, tout ceci peut se résumer dans un excellent travail qu'a fait Élise Luneau pour une thèse qui est en cours de publication, je crois que ça devrait paraître bientôt, qui s'appelle « La fin de la civilisation de l'Oxus » et il y a tout un développement après. Et elle a, donc dans un tableau, mis en exergue les continuités et les ruptures au cours de cette phase. Comme vous voyez, celui des ruptures est beaucoup plus rempli. Et il y a toute une série de transformations qui se passent et qui sont finalement assez rapides et importantes. Alors, cette phase est suivie de ce que moi je continue de considérer comme plutôt la fin de l'âge du bronze que d'autres appellent déjà l'âge du fer, mais en fait le fer est quasiment inexistant dans cette époque. C'est, en plus, si on se réfère à la chronologie pratiquée dans le monde mésopotamien, c'est un peu absurde parce qu'on se retrouve avec l'âge du fer qui précède en Asie centrale, et, alors qu'on est toujours à l'âge du bronze là-bas. Donc, c'est un peu. Mais enfin bon, tout ça, ce sont des nomenclatures pour lesquelles on ne peut pas grand-chose parce qu'elles ont une vieille histoire. Et les gens les pratiquent. Bon. Donc, appelons au moins transition, entre 1400 et 1100. Alors là, c'est encore une thèse qui vous a été brillamment présentée la semaine dernière, je crois, ou enfin, avant les vacances, par Johanna Lullier, sur cette nouvelle culture qui apparaît avec des céramiques modelées peintes. Et sur cette carte, elle vous a montré les différents noyaux qui ont chacun, je pense qu'elle a peut-être un petit peu exagéré parce que certains peuvent peut-être être mis ensemble, mais enfin bon, on a des tas de petits groupes qui ont chacun leur céramique différente, mais qui en même temps présentent beaucoup de traits communs. Alors il y a évidemment celui du site éponyme, Yazdépé en Margéane. Donc, puisqu'on appelle cette culture celle de Yaz, celle qu'on trouve dans le Piémont, du Kopedag, culture de Doulouk Tepe, qui n'est pas toujours similaire, puisque vous voyez, vous avez à la fois ces décors extrêmement fins et puis vous avez ces décors plus grossiers, donc tout ça est à Oulouk. Vous avez celle de Tchoust, au Fergana, avec encore un système décoratif différent, plus élaboré ici, avec ces espèces de dents longues et qui descendent jusqu'au fond. Vous avez celle de Bourgouliouk et qu'on connaît aussi à Koktepe en Sogdiane. Et là, le décor peint est assez rudimentaire, c'est plutôt des coups de chiffon en général. Celle de Tiliatepe, etc., etc. Donc, comme vous avez vu, cette nouvelle culture, elle couvre un territoire absolument gigantesque. et c'est la première fois en Asie centrale qu'on a une telle unité, mais en même temps avec de très grandes variations régionales. Il est certain que si tous ces groupes font partie d'une même famille, ils sont distincts, un peu comme des tribus, finalement, hein, comme des motifs de tapis. Chaque groupe a son motif. Alors, on observe que, par exemple, on observe des tendances. Donc, ceux qui sont à l'ouest ont une céramique grise à décor en relief qui est associée. Ceux qui sont au nord utilisent des couteaux serpes en pierre ou en métal, qu'on retrouve aussi au Kazakhstan et tout ça. Et l'habitat varie beaucoup selon les régions. En quelque sorte, ils adoptent l'habitat qui se trouvait là où ils étaient. C'est-à-dire qu'en Sogdiane, je vous ai montré ces grandes maisons semi-enterrées, ces emlyanké. Eh bien, là-bas, ils continuent à adopter ce genre de maison. C'est ce qu'on a à Kok Tepe, à Borgolyouk, etc. Au contraire, dans les zones d'oasis où l'architecture était importante, ils s'installent et peut-être construisent-ils des plateformes, comme on le suppose pour Yazd Tepe. Ce qui est commun, en tout cas pour tous, c'est l'absence d'inhumation, de palais, de temples. On ne connaît rien pour cette période qu'on puisse vraiment rattacher à ce type de construction. Alors, Johanna, toujours, avait bien fait cette carte où elle montre qu'on trouve aussi, plus au sud de l'Hindou Kouch, des cultures à céramique peinte qui ont, elles aussi, des différences, c'est certain, avec celles du Nord, mais ni plus ni moins. On est encore dans le cas de ces tribus qui, chacune, a ses petites variations. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on se rapproche très fortement de l'Inde. Donc, ça me semble plus intéressant de considérer que tout l'ensemble de cette culture puisse être rattaché aux Indo-Iraniens ou aux Indo-Ariens que celle d'Andronovo. Mais on y reviendra. Alors, voici par exemple la céramique peinte de Mundigak. Ce qui m'intéresse de vous montrer, là, c'est ce décor qui descend. C'est toujours... chaque fois, vous avez des petites variations des uns aux autres. Voici encore Mundigak. Et là, je vous montre d'autres tessons de céramique où vous voyez un décor et finalement des formes pas tellement différents. Là, quelque chose qui pourrait en quelque sorte rappeler aussi un peu ce qu'on a vu à Tchoust. Des formes, certes, les formes sont très banales, ce sont des vases faits à la main, les fonds sont ronds, vous avez essentiellement des grands bols et quelques pots, tout ça peut se trouver partout, certes. Et là, ce que je viens de vous montrer provient du Haut-Euphrate, au bronze ancien, c'est-à-dire quelque part entre 2008 et 2002. Or, le seul endroit, effectivement, maintenant que comme j'ai travaillé en Syrie, que je travaille au Caucase, maintenant je commence à bien connaître un peu toutes ces cultures, je connais bien celle d'Asie centrale, le seul endroit où on a en quelque sorte un nid à céramique peinte, parce que là-bas on le retrouve sans arrêt, il revient en permanence, c'est cette région du Caucase, disons de l'Anatolie orientale et du Caucase, où sans arrêt la céramique peinte revient, et quelquefois avec des motifs associés avec de la céramique gris-noire à décor en relief, qu'on retrouve, comme je vous l'ai dit, du côté de l'ouest dans le piémont du Kopet Dag, avec notre céramique Yaz 1. Et comme vous voyez ici, toujours associé, ou très souvent associé à ces symboles de swastika, soi-disant des symboles ariens. Alors, je pense que c'est quand même, on a là de très bons ingrédients pour en faire des indo-ariens et indo-iraniens à l'origine de nos cultures de Yaz 1. Enfin, cette culture de l'Euphrate serait à l'origine de nos Yaz 1, qui seraient des indo-iraniens ou des indo-ariens. Cette origine qui se trouverait dans le Caucase, en tout cas, permettrait d'expliquer beaucoup mieux pourquoi, aux environs du XVe siècle, il y a en Mésopotamie du Nord et dans ce monde du Sud-Caucase, ce royaume du Mitanni, où tous les rois ont des noms ariens et où il y a des traités qui parlent et qui utilisent des termes typiquement indo-iraniens pour l'élevage des chevaux, etc. En 200 ou 300 ans, cette culture de Yaz 1 se fond complètement en Asie centrale. Elle adopte, là où elle est, l'architecture locale et éventuellement les technologies locales. Donc, la céramique peinte, la céramique façonnée disparaît, en tout cas au sud, et elle se met à adopter une céramique tournée qui reprend tout à fait la tradition de l'âge du bronze. En revanche, il est certain qu'elle a imposé sa religion et ses rituels, puisque nous n'avons plus aucune tombe et nous n'avons pas de traces visibles de la religion. Il est très possible, donc, qu'elle ait aussi imposé sa langue. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle était la langue des gens du Bimac, quelle était la langue des Kelteminars, des Afanasievo, Andronovo, etc. On prétend que Andronovo était déjà de langue indo-iranienne, mais personne ne le sait. Alors, l'âge du fer, donc c'est cette période qui suit immédiatement, entre 1000 et 330, va nous montrer un retour à la scission que je vous ai montrée jusqu'à l'âge du bronze, c'est-à-dire que la vallée du Zerafshan ne va pas suivre le modèle du sud. Alors, il faut savoir qu'il y a toute une série de problèmes inhérents à la périodisation Yaz 2, Yaz 3. Le premier problème, c'est un problème de chronologie absolue. On ne peut pas faire de datation au carbone 14 parce qu'on est dans cette période entre 1000 et, enfin, disons, entre 800 et 400, où qu'on soit dans le monde, les datations restent sur un plateau aussi large parce qu'il y a eu d'énormes fluctuations du carbone 14 dans l'atmosphère et que donc, toutes les analyses qu'on peut faire ne donneront jamais de résultats précis. Ensuite, le matériel est extrêmement homogène et très peu varié. Il n'y a pas ou très peu d'objets de prestige dans les établissements. On ne connaît pas de palais avéré, évidemment. Chaque fois qu'on a une grande maison, on peut l'appeler un palais, mais puisqu'il n'y a pas de matériel dedans qui le prouve, c'est difficile. Des temples, bon, là, on est toujours en train de discuter, est-ce vraiment un temple, est-ce que ce n'en est pas un, c'est un très délicat. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des fortifications. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une extension de l'irrigation. Alors, on pourrait rediscuter sur l'irrigation existait-elle dans la culture bactromargienne. Ça, on peut vraiment en discuter. En tout cas, en Bactriane orientale, où nous avions fait cette prospection, où nous avions quand même des conditions absolument extraordinaires, puisque c'était encore à l'époque du Shah, où le pays était à l'état de Moyen-Âge et où les choses n'avaient quasiment pas changé depuis des siècles et des siècles, voire même des millénaires, on pouvait retrouver très facilement les traces des canaux. On les suivait d'un bout à l'autre de la vallée et en ramassant le matériel sur les sites le long des canaux, on arrivait à les dater. Et là, on a vraiment pu prouver qu'il y avait des canaux déjà dès l'époque de Chartougaï et que visiblement, à l'époque Yaz 2-3, il y avait eu une extension du réseau d'irrigation. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de tombe et donc pas de matériel associé. Or, c'est en général dans les tombes qu'on trouve ce qui nous permet de dater le mieux. On ne voit pas une très grande différenciation sociale, justement puisqu'on n'a pas de tombe, et que le matériel est très homogène. Tout ça a l'air d'être une société assez égalitaire. Alors, un autre grand problème, c'est qu'il y avait certainement des centres urbains. Je veux dire, qui va contester que Bactre, Merve ou Samarcande étaient de grands centres urbains? Malheureusement, les couches de ces époques-là sont quasiment impossibles à atteindre parce qu'elles sont recouvertes par 15 mètres de stratigraphie supérieure. Et donc, au mieux, on fouille les remparts. Et on n'a pas d'idée des bâtiments qu'il pouvait y avoir dedans. Pour la période achéménide, qui se situe à la fin, mais quand exactement, on n'a quasiment pas d'import, sauf dans des trésors qui sont postérieurs, comme le trésor de l'Oxus ou le trésor qui a été récemment trouvé à Mirzaka, à la frontière du Pakistan, le trésor de Mirzaka II. Il n'y avait pas non plus de monnaie, toujours à cette époque, toujours pas de monnaie, et enfin, pas d'écriture, sauf tout à fait à la fin, les documents que présentera Chaquet, peut-être bientôt. Donc, au bout du compte, il est extrêmement difficile pour nous de pouvoir différencier un matériel qu'on pourrait avec certitude attribuer à la période achéménide, c'est-à-dire en gros à partir de 520, puisque on sait que Darius, dans ses inscriptions, dit qu'il a conquis toutes ces, enfin, que toutes ces terres sont conquises et qu'elles apportent un tribut à son palais. Alors bon, là, je vous présente, mais il ne s'agit pas de gens d'Asie centrale, sauf peut-être celui qui tend les deux bracelets, là, je pense, ici. Mais c'est juste pour vous rappeler qu'il y a tous ces donateurs. Et on sait que le lapis lazuli et la cornaline étaient apportés par les Sogdiens, la turquoise par les Corasmiens, l'or par les Bactriens, l'ivoire, les Arachosiens, c'est-à-dire la région de Kandahar. Alors, quelle architecture a-t-on ? On a de la belle architecture pour cette époque. Le problème, c'est de la dater, comme je vous dis. Donc, voici par exemple en Bactriane du Sud, ces forteresses circulaires, assez impressionnantes, d'après les reconstructions qu'on en fait. Ça, Koutloug Tepe, et voici toujours Koutloug vu du dessus en coupe. Alors là aussi, on voit une profusion d'archères. On est un peu perdu. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a retrouvé ou est-ce que c'est une reconstitution? Je ne sais pas. C'est assez curieux. Voici une autre forteresse circulaire, celle de Talashkan Tepe en Bactriane du Nord. Et voici le plan. Donc, là aussi, on voit toute une profusion de petits traits. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est un millepertuis. Je ne sais pas. Voici un autre site important pour cette longue période. C'est celui d'Oltindis en Bactriane du Nord. En Bactriane du Sud, pardon, côté afghan. Alors, vous avez cette cour à péristyle. Ceci nous rapproche déjà plus d'Aïr Hanoum. Donc, peut-être serions-nous plus près d'une période achéménide. Et il y avait un palais d'hiver, un palais d'été, je ne me souviens plus lequel est l'un, lequel est l'autre. L'autre, donc, de d'Oltindis, lui, est quand même, rappelle aussi un peu la trésorerie d'Aïranou. Donc, peut-être aussi nous trouvons-nous à une période achéménide. Mais les publications, hormis l'architecture, ne donnent quasiment rien. Donc, c'est vide. On ne sait pas. Finalement. Et là, sur la partie droite, du haut en bas, vous avez une reconstitution d'une autre de ces demeures qui sont relativement grandes, mais qui finalement ressemblent un peu au Kala qu'on a tous connu quand on se promenait en Afghanistan, c'est-à-dire ces grandes constructions avec des grands murs, des archères aussi, hein, on en a vu. Des grandes demeures avec des pièces pour les invités et des pièces pour l'habitat. Et malheureusement, rien de tangible qui puisse nous dire ça date plutôt de l'an 800 ou plutôt de l'an 400. Alors, je vous ai dit que le matériel était extrêmement uniforme et peu varié. Je vous en donne quelques exemples, mais vous retrouverez cette céramique absolument partout. Et elle est bien faite, elle est très certainement au moins reprise sur le tour, selon la taille des vases, et il est clair qu'elle s'inspire, enfin, qu'elle est issue de la tradition bimak précédente, puisqu'on retrouve ces façons de faire avec la base conique ici. Alors, certains vases conservent encore des traces de peinture, peut-être une réminiscence de la phase antérieure. Donc, celui que je vous avais présenté est soi-disant de la période Yaz II, et ici, soi-disant de la période Yaz III. Mais je vous assure que quand vous essayez de faire la différence, réellement, quand vous êtes face à ce matériel, vous-même, d'un jour à l'autre, vous changez d'avis et personne parmi les spécialistes ne vous dira la même chose. Sauf que peut-être, en gros, au départ, il y a des lèvres plutôt arrondies et que vers la fin, les lèvres sont plutôt aplaties, comme vous l'avez là. Mais exactement quand, à partir de quand le méplat s'est aplati? Est-ce que c'est sous les achéménides, avant les achéménides, à la fin des achéménides? On ne sait pas. Voici une reconstitution, en partant du bas jusqu'en haut, du matériel et de l'architecture associée du site de Kuchuk Tepe, qui se trouve dans le Surkhandarya. Et bon, vous voyez, vous retrouvez là-haut toujours les mêmes formes qu'on connaît partout en Bactriane et en Margiane et dans le Surkhandarya. Au nord, dans le Zerafshan, nous avons une toute autre culture. Et ça, c'est une découverte relativement récente, parce qu'on ne le savait pas jusqu'à présent et qu'on pensait que la vallée du Zerafshan, Samarcande, avait suivi exactement le même chemin. Or non, pas du tout, il n'a pas suivi le même chemin. Il y a pendant un certain temps, et quasiment on peut dire jusqu'au grec, c'est certain, il a un matériel local qui lui est tout à fait propre et qui est très grossier, comme vous le voyez, et beaucoup constitué de ces espèces de marmites à tenons, souvent avec un fond perforé. En général, on considère que ces vases ont dû servir à filtrer des produits laitiers. Donc, on associe ça plutôt en général à des éleveurs, des gens qui ont des troupeaux. Voilà une forme et le fond est rond. Le dégraissant est très grossier avec du schiste dedans. Et quelquefois, ces vases sont très, très grands. Ils sont à peu près hauts comme ça, et ils ont servi de conteneurs. Voici d'autres formes avec un col plus prononcé, des vases avec un peu biconique. Il y a une céramique plus fine, entre guillemets, plus délicate, en général des petits vases. Et là, c'est toujours le même dégraissant de schiste, mais il est pilé. Et donc, c'est déjà de meilleure qualité. Donc là aussi, finalement, peu de formes, peu variées. Et c'est un matériel qui provient essentiellement, qui a été essentiellement trouvé à Koktepe, des fouilles dirigées, enfin, sous la direction de Franz Grenet, mais dirigées par Claude Rapin. Sans les fouilles qui ont été faites sur ce site, je crois qu'on n'aurait jamais trouvé cette céramique parce qu'elle n'existe autrement que épisodiquement par une dizaine de tessons au maximum, par exemple à Afrasiab. J'ai réussi à la déceler à Afrasiab après avoir connu celle de Koktepe, mais autrement on ne la voit pas, ce sont des tessons isolés. Donc, sur le site de Koktepe, c'est essentiellement dans cette zone qu'il a travaillé, où il a trouvé ce matériel. Et alors, il y aurait là un temple, mais ça, je préfère que Claude et Franz en parlent un jour. Et il y aurait aussi une phase achéménide, la phase achéménide se trouvant plutôt là. Alors, cette céramique fine, comme je vous l'ai dit, elle continue certainement au moins jusqu'à la période achéménide, ça c'est certain, voire même peut-être grecque, parce que cette forme-ci que vous avez ici en façonné existe en céramique tournée et on la connaît très bien à la fin de la période achéménide et au tout début de la période grecque. Voici encore des vases typiquement achéménides, et en particulier là à droite, ce riton sous forme d'amphore, et là un gobelet qui sont comme les gobelets en métal gaudronné, typiques du monde achéménide. Alors, ce matériel achéménide, entre guillemets, pourrait être rattaché à cette phase du rempart d'Afrasiab, qui est là encore un rempart à galerie avec des archères, qui est le rempart le plus ancien.
Non, c'est le deuxième.
C'est le deuxième, ouais. Bon. Mais le premier
est massif.
Et il est massif.
Le premier est massif, oui.
Donc, peut-être pourrait être associé à ce matériel. En tout cas, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on voit que la Sogdiane, puisque maintenant nous pouvons enfin savoir où se trouvent vraiment les limites de la Sogdiane, elles suivent le cours de la rivière Warsh et ensuite la Moudaria. Avec Tartisanguin, le lieu où a été trouvé le trésor de l'Oxus, juste au confluent, et c'est de là que proviennent les seuls vrais objets achéménides qu'on ait à se mettre sous la dent, comme ce magnifique petit chariot ou ce splendide bracelet. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette phase de désurbanisation et en tout cas sur cette différenciation très importante de la Sogdiane par rapport à la Bactriane, qui explique beaucoup mieux pourquoi dans les textes elle est toujours mise à part.
Oui, oui, oui. Bon, mais on a en principe épuisé l'heure, mais si on ne nous chasse pas de la salle, il y a peut-être, peut-être quelques minutes pour des questions ou des remarques. Bon, moi, évidemment, j'en aurais plein à faire. Rectification.
Ouais.
Ce que va nous présenter Shaul Chaquet début avril, ouais, ça n'est pas les documents achéménides de Batre, dont la publication complète est maintenant sortie. Mm. C'est de nouveaux documents d'Afghanistan plus tardifs qui sont des documents juifs.
Ah, bon.
Alors, les idées de Claude Rapin sur la chronologie de COC-TP et l'identification fonctionnelle des bâtiments. Il a eu l'occasion de les présenter ici même au collège lors du colloque qui a eu lieu le 6-7 novembre, sur la religion des Achéménides. Mmh. Donc une partie de l'auditoire a déjà eu l'occasion d'en entendre parler. Mmh. D'abord, ce que tu nous as dit là, donne beaucoup d'informations et en même temps soulève des quantités de questions. Bon, il y a évidemment l'hypothèse fascinante d'une influence exercée depuis le Caucase jusqu'à l'Asie centrale.
Non, je dis pas que c'est une influence. Pour les céramiques peintes.
Oui.
Pour les céramiques peintes.
Oui. Alors, c'est pas la première fois.
Moi, je l'avais mis dans ma thèse déjà.
Pour résumer les données du problème, les plus anciens documents connus en langue indo-européenne sont des noms et des termes, sont des noms et de divinités.
De rois.
Et ensuite, plus tard, on a des noms de rois et des termes techniques dans des documents du Mitanni. Mais les plus anciens, c'est vers 400. 1400, c'est dans un serment où apparaissent des divinités qui sont carrément indiennes. Mm. Ce sont il y a six divinités qui sont typiques du panthéon védique. Mm. C'est au Mitanni. Mm. Alors, à partir de là, depuis qu'on a mis ça en évidence dans les années 1930, la question rebondit sans cesse. Disons, l'opinion majoritaire... c'est que, si on se fie à des schémas historiques des époques ultérieures, on aurait plutôt un mouvement d'est en ouest, et ces documents du Mitanni traduiraient l'irruption en Anatolie, disons, d'aristocratie sacerdotale ou militaire, qui serait en fait issue d'un peuplement, d'une strate migratoire proto-indienne qui se serait installée en Asie centrale avant de descendre sur l'Inde et d'être remplacée en Asie centrale, par les Iraniens. Mmh. Mais la deuxième hypothèse aussi est périodiquement évoquée. C'est-à-dire qu'en réalité, ces gens se seraient d'abord établis en Anatolie et puis auraient poussé très loin en direction de l'Est. Mmh. C'est très difficile. Si on n'avait que les décors des céramiques et les formes, il serait très difficile de faire ce type d'hypothèse parce que, disons, l'idée malgré tout d'invention pour des choses aussi simples, l'idée d'invention concomitante ou d'un relatif continu on peut pas considérer véritablement ces décors comme des fossiles directeurs. C'est très très difficile.
Bien sûr, mais après avoir longtemps cherché, en tout cas moi je pense que les Androuviens sont vraiment totalement à écarter.
Moi, je dirais, même des gens comme Kuzmina ne disent pas Andronovo égale indo-iranien. Ils disent c'est au sein des cultes. On n'a jamais non plus eu la preuve, ni même affirmé, que les Androuviens étaient monolingues. On n'a jamais tenté d'écrire un texte en Androuvien. Bon, on a tenté autrefois d'écrire des textes en indo-européen. On tente toujours. Autrefois, ça ressemblait à du sanskrit. Maintenant, ça ressemble à de l'algèbre, avec les gutturales, etc. Mais même des gens assez extrêmes comme Kuzmina ont toujours dit, au maximum, c'est au sein de la symbiose andronovienne qu'aurait pu émerger, alors elle voit émerger un groupe de proto-indiens qui sont plutôt des Androuviens de l'Est, et en fait les proto-iraniens, elle les verrait du côté de l'Oural. Et puis bon, il y a malgré tout dans la symbiose Andronovo la culture de Sintashta, qui est malgré tout dans tout ce qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui, ce qui peut le mieux rappeler certaines choses qu'on a dans le Védisme. Bon, c'est dans l'Oural.
Oui. Bien.
Tout ça est bien difficile à manier. Alors, juste un autre point sur lequel je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec toi, c'est l'impossibilité aux phases IAS 1 et IAS 2 d'isoler de véritables hiérarchies sociales. Il y a un endroit où on peut le faire, c'est Ouluk Tepe et autour. Là, ils nous ont... je ne sais pas si tu étais à la présentation que nous donnaient donc Olivier Lecomte, Johanna et Rulio, surtout Johanna. Ouluk Tepe, il y a un palais à Ouluk Tepe.
Le palais, ils sont en train de le fouiller.
Oui, il y a une grande trésorerie, il y a des structures de type palatial.
Il y a une une zone de stockage. Une zone de stockage.
TP, il est difficile de ne pas voir dans Oulu TP un grand centre de pouvoir. Bon. Et par ailleurs, ce qu'ils ont mis en évidence récemment, c'est des petites châtellenies, on peut appeler ça comme ça, dans la zone autour. On voit là quand même se constituer une hiérarchie. Alors, évidemment, quand on est de formation iraniste et disons nourri à l'Avesta, aux textes zoroastriens, etc., il est très tentant de jouer avec ça et le jeu parfois paraît assez fécond. On a au stade de l'Avesta récent une hiérarchie sociale qui se dessine, les Dayupati, maîtres des pays, les Wispati, maîtres des villages. On peut tenter d'appliquer ce nom sur les réalités archéologiques qu'ils ont trouvées dans la région d'Uluk Tepe. Il est certain aussi que deux autres phénomènes ont quand même l'air de pouvoir être mis en résonance avec des choses qu'on a dans l'Avesta récent. Je ne parle pas de l'Avesta ancien, où il n'y a strictement rien qui puisse être rattachable à quoi que ce soit de géographique, et aucun terme rattache, à part des termes pastoraux, rattachable à une culture matérielle ou architecturale. Dans l'Avesta récent, on voit qu'il y a des canaux, mais on voit pas de temple. On voit pas vraiment de ville. Enfin, quand on a des noms comme Merv, Batre, etc., on ne sait jamais si c'est le peuple ou si c'est la ville. Bon, on n'a pas de palais. On a des demeures, on a des riches demeures. Voilà, on a des riches demeures, hein, ça c'est dit. On a des canaux, ça c'est dit. On a un ensemble géographique qu'on peut maintenant définir assez bien, qui va d'est en ouest, du Pamir au Turkménistan, du nord au sud, de la Sogdiane aux confins de l'Inde. Ça rappelle quand même beaucoup des choses qu'on a à IAS 2 et peut-être même davantage, à IAS 1, peut-être davantage à IAS 2. Et puis évidemment, la disparition des sépultures. On se dit, c'est tentant, longtemps, en liaison avec les rituels de décharnement.
Qu'à cette époque-là,
sauf qu'à Djarkoutane, on s'aperçoit à Djarkoutane qu'en fait, les choses sont beaucoup plus diverses. On a des inhumations secondaires, on a des indices d'exposition des corps, mais on a aussi d'autres choses. Disons, on ne va jamais dire, aujourd'hui, personne de sérieux ne va jamais dire, Andronovo parlait indo-iranien. Zoroastre est né à Sintashta. Les chefferies autour d'Uluk Tepe, c'est la hiérarchie sociale qu'on se trouve dans l'Avesta. Malgré tout, il est quand même permis de se demander si ces réalités-là ne sont pas une portion de ces ensembles archéologiques énormes. Si quand même, malgré tout, ça n'en sort pas. Voilà, on peut quand même poser la question en ces termes.
Oui. Non, moi, je suis persuadée qu'à l'époque, IAS 2, IAS 3, et même IAS 1, on pratique déjà le zoroastrisme, l'exposition des corps. Et donc, il y a une telle filiation dans tout ça que...
Enfin, on pourrait discuter de ça encore pendant fort longtemps. Je rappelle qu'il y a eu au Collège de France un colloque il y a 6-7 ans, indo-iranien, arien, je ne sais plus le titre exact, arien, indo-iranien, qui a été copublié par Xavier Tremblay, Henri-Paul Francfort, Gérard Foussman, et où on a toutes sortes de matériaux à la fois linguistiques et archéologiques autour de ces données, mais les choses avancent très vite d'année en année, et la documentation que tu as montrée là est considérablement enrichie et diversifiée par rapport à celle qui est utilisée dans ce volume. Voilà, je pense, si on ne nous met pas dehors, il peut peut-être y avoir place pour quelques questions. Sinon, elles peuvent se poser dans la coulisse. Enfin, encore une fois, on peut remercier Bertrand.